Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Les Peuples du Nord de Frodi à Harald l'Impitoyable, yé 11e siècle, Lucy Malbos propose une vaste synthèse historique sur la Scandinavie du premier millénaire. Publié dans la collection Mondes Anciens de Bélin, cet ouvrage ne se limite pas à l'âge viking, il replace les expéditions, les raids et les migrations des 8e-10e siècle dans une histoire plus longue, ouverte dès l'époque romaine et prolongée par la formation des royaumes chrétiens au 11e siècle. L'autrice, médiéviste spécialiste du monde scandinave, mobilise de manière croisée archéologie, textes occidentaux, inscriptions runiques et sagas islandaises, tout en tenant compte des débats historiographiques récents. Son objectif est de défaire l'image uniforme d'un peuple de guerriers venus du Nord. Elle décrit au contraire des sociétés diverses, liées par le commerce, les mobilités, les pratiques religieuses et les transformations politiques. Le livre constitue ainsi à la fois une histoire de la Scandinavie et une analyse de ses connexions avec l'Europe médiévale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, replacer l'âge viking dans un millénaire de continuité scandinave. L'un des apports centraux du livre consiste à refuser que l'histoire nordique commence brutalement avec le raid de Lindisfarne en 793. Lucy Malbos organise son étude sur une longue durée, les premiers siècles de notre ère, l'époque viking proprement dite, puis le 11e siècle. Cette périodisation permet d'observer que les mobilités maritimes, les contacts commerciaux et certaines hiérarchies sociales existaient avant l'intensification des raids occidentaux. Les vikings ne sont donc pas présentés comme l'expression isolée d'une civilisation surgie de nulle part, mais comme des acteurs issus de sociétés déjà insérées, à des degrés divers dans les échanges européens. Les contacts avec l'Empire romain, attestés notamment par les circulations d'objets et de monnaie, rappellent que le Nord n'était pas un espace fermé. La perspective de long terme rend également plus intelligibles les changements ultérieurs évolution des navires, des habitats, des pratiques funéraires, des formes de pouvoir et des réseaux d'échange. Elle évite deux simplifications fréquentes, celle d'une Scandinavie immobile avant les Vikings et celle d'une rupture totale après eux. L'époque viking garde sa force propre, mais elle devient une phase d'accélération et de recomposition plutôt qu'un commencement absolu. Deuxièmement, distinguer les vikings des peuples scandinaves et dépasser les stéréotypes guerriers, le titre même, les peuples du Nord, indique un choix de vocabulaire et de méthode les vikings ne résumant pas les populations de Norvège, de Suède, du Danemark, puis des établissements de l'Atlantique Nord. Le terme ne désigne pas simplement une nation homogène. Il renvoie généralement à des pratiques d'expédition, de navigation, d'échange ou de prédation exercées dans des contextes variés. Cette distinction aide à comprendre que la majorité des habitants du Nord ne se définissaient pas d'abord par le raid. Le livre examine aussi les réalités qui entourent les images les plus populaires: commerce, artisanat, habitat, hygiène, jeux, sépulture, esclavage et organisation sociale. Cette attention au quotidien ne minimise pas la violence des expéditions, mais la replace parmi d'autres activités et contraintes. Elle permet de saisir pourquoi les hommes et les femmes du Nord pouvaient être simultanément agriculteurs, producteurs, navigateurs, marchands ou combattants, selon leur statut et les circonstances. L'ouvrage prend également ses distances avec des clichés persistants, tels que le casque à cornes ou certaines projections identitaires contemporaines. Son intérêt est moins de substituer une image idyllique à une image brutale que de restituer une diversité sociale et régionale. La figure du guerrier demeure importante, mais elle cesse d'occuper seule tout le paysage scandinave. Troisièmement, comprendre des sociétés nordiques connectées à l'Europe et à l'Atlantique Nord. Lucy Malbos insiste sur l'importance des relations extérieures pour expliquer l'histoire des peuples du Nord. La Scandinavie est composée d'espaces très différents: montagnes norvégiennes, zones boisées et lacustres suédoises, terres et îles danoises, puis Islande et Groenland. Cette diversité géographique influe sur les ressources, les habitats et les voies de circulation. Cependant, la mer ne constitue pas seulement une frontière, elle est un moyen de relier ces territoires entre eux et avec des sociétés lointaines. Les échanges ne se réduisent donc pas aux affrontements avec les royaumes occidentaux. Ils comprennent des circulations de biens, de techniques, de personnes et de références culturelles. L'extension des routes maritimes et fluviales éclaire à la fois le commerce, les implantations extérieures et les expéditions armées. Cette approche invite à considérer les Scandinaves comme des participants actifs à une Europe en transformation, plutôt que comme des périphéries simplement tournées vers le pillage. Le livre souligne aussi que ces contacts transforment les sociétés nordiques, elles-mêmes l'accumulation de richesses. Les formes d'autorité et les choix religieux ne peuvent être étudiés indépendamment de ces connexions. L'exploration et la colonisation de l'Atlantique Nord prolongent ce mouvement, tout en révélant les capacités d'adaptation de communautés confrontées à des milieux nouveaux. l'histoire du Nord devient ainsi une histoire relationnelle, fondée sur les interactions autant que sur les frontières. Quatrièmement, évaluer les sources archéologie, runes, textes chrétiens et sagas en dialogue, la richesse de l'ouvrage tient aussi à la pluralité des sources utilisées pour reconstruire une période où la documentation est inégale. L'archéologie fournit des informations concrètes sur les lieux de vie, les sépultures, les navires, les objets et les échanges. L'archéologie expérimentale peut, elle aussi, éclairer les gestes techniques et les conditions matérielles. Les pierres runiques apportent des témoignages produits dans les sociétés nordiques. Mais elles répondent à des usages mémoriels et sociaux précis, elles ne livrent pas à elles seules une image complète du passé. Les manuscrits occidentaux renseignent souvent sur les raids, les conflits ou les missions chrétiennes, tout en reflétant le regard de leurs auteurs, fréquemment victimes, adversaires ou interlocuteurs des Scandinaves. Quant aux sagas islandaises, elles sont essentielles à la mémoire nordique. Mais leur rédaction tardive impose de ne pas les traiter comme des comptes rendus immédiats des événements. La démarche de Malbos repose donc sur le croisement critique plutôt que sur la recherche d'une source définitive. Cette prudence est particulièrement utile face aux débats très médiatisés sur les femmes guerrières, les berserkirs, les rois anciens ou les croyances païennes. Elle montre que l'histoire des peuples du Nord se construit par l'interprétation de traces fragmentaires, parfois contradictoires. Le lecteur comprend ainsi non seulement ce qui est connu, mais aussi pourquoi certaines affirmations doivent demeurer nuancées. En dernier lieu, la christianisation et les royaumes, une transformation lente du monde nordique, le XIe siècle n'est pas traité comme une simple conclusion après l'aventure viking, mais comme une période de restructuration décisive. La christianisation y apparaît comme un processus progressif antérieur dans certains cas aux grandes expéditions des IXe et Xe siècles et longtemps marqué par des coexistences. La conversion des souverains, l'action missionnaire, les liens avec les pouvoirs chrétiens voisins et l'évolution des pratiques sociales contribuent à l'implantation de la nouvelle religion. Pour autant, le livre ne réduit pas ce changement à une disparition instantanée du paganisme. Les phénomènes de syncrétisme et les survivances de références anciennes montrent que les appartenances religieuses se transforment selon des rythmes locaux. Les inscriptions et représentations, associant parfois des signes chrétiens et nordiques, illustrent la complexité de cette transition. Dans le même temps, les bandes d'expédition cèdent progressivement le premier plan à des armées et à des pouvoirs royaux plus structurés. Danemark, Norvège et Suède s'affirment alors comme grands royaumes chrétiens, davantage intégrés à la chrétienté latine et au cadre politique du Moyen-Âge occidental. Cette évolution ne signifie pas que la Scandinavie perd toute singularité. Elle éclaire plutôt la manière dont des institutions, des élites et des pratiques nouvelles s'articulent à des héritages locaux. L'analyse relie ainsi conversion religieuse, centralisation politique et intégration européenne sans les confondre mécaniquement. En conclusion, les peuples du Nord s'adressent à un lectorat large, depuis les personnes attirées par l'histoire viking jusqu'aux étudiants et lecteurs déjà familiers du Moyen-Âge européen. Son principal bénéfice intellectuel est de fournir un cadre solide pour interpréter un sujet souvent saturé d'images populaires, guerriers casqués, raids spectaculaires. Conquêtes et légendes. Lucie Malbos n'écarte pas ces thèmes, mais les replace dans une histoire sociale, politique, matérielle et religieuse beaucoup plus étendue. Le lecteur peut ainsi comprendre les liens entre échanges romains anciens, expansion maritime, formes de pouvoir, société locale et christianisation, au lieu d'additionner des anecdotes sur les vikings. L'ouvrage se distingue des introductions centrées exclusivement sur les expéditions des 8e et 10e siècles par son ampleur chronologique du 1er au 11e siècle, et par l'attention portée à l'ensemble de la Scandinavie ainsi qu'à l'Atlantique Nord. Il se démarque également des récits uniquement événementiels grâce à son intérêt pour l'habitat, les sépultures, l'esclavage, les femmes, les pratiques culturelles et les sources elles-mêmes. L'appareil visuel, les cartes et les encadrés signalés par les recensions soutiennent cette ambition pédagogique, sans transformer la synthèse en simple ouvrage illustré. Enfin, le recours conjoint à l'archéologie, aux runes, aux textes latins et aux sagas rend sensible la difficulté du travail historique. C'est donc un livre particulièrement pertinent pour qui cherche une vue d'ensemble critique, documentée et nuancée des mondes nordiques, au-delà des mythes comme des simplifications inverses. Si vous souhaitez soutenir Lucie Malbos, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.